Bien, il est 10 heures, nous pouvons donc commencer. Bienvenue à tous pour cette nouvelle série de cours du jeudi matin. Je rappelle donc que le cours dure 2 heures, entre 10 heures et midi, et que nous faisons une petite pause de 5 minutes entre les deux parties. Je rappellerai que dans les années précédentes, l'attention dans ces travaux a été portée sur ce qu'on pourrait appeler des migrations textuelles, c'est-à-dire les passages d'un texte, d'une œuvre, d'une langue à une autre, de là évidemment l'importance de la ou des traductions, d'un genre à un autre, par exemple entre le roman et le théâtre, ou bien encore d'un contexte historique à un autre. Je rappellerai seulement quelques-unes des études de cas qui ont voulu marquer ces migrations textuelles. Lorsque l'on parle de la traduction, j'y reviendrai peut-être cette année, par exemple, la traduction de Gracián, L'Oraculo Manual y Arte de Prudencia en français, qui transforme profondément le sens du texte. Lorsque l'on parle de migration entre genres, toutes les conférences ou tous les cours voués aux adaptations théâtrales du Quichotte, depuis la France du XVIIe siècle jusqu'au Portugal du XVIIIe, en serait comme une illustration, ou bien encore le passage de la chronique historique à la forme théâtrale. J'avais consacré à la pièce La Commedia de Lope de Vega à Fuente Ovejuna une étude qui portait sur cette migration, ou encore, plus spectaculaire, la migration du texte lorsque, dans sa langue ou traduit, il est approprié dans des situations pour des fins avec des intentions différentes. C'était le cas, par exemple, de Las Casas, la Destruición de las Indias et de sa itinéraire dans le monde européen jusqu'au début du XIXe siècle. Donc il s'agit là d'études de cas qui focalisaient l'attention sur une ou une autre des formes de la migration textuelle. Et je signale, bien que je n'aime pas beaucoup le faire, que certaines de ces études vont être publiées dans un livre qui va paraître bientôt chez Garnier, qui était le résultat non seulement de conférences au Collège de France, mais en même temps reprises dans des conférences à la mémoire de Paul Zumthor, un historien de la littérature qui enseignait à Montréal, et ce livre aura pour titre « L'œuvre, l'atelier, la scène », trois études de mobilité textuelle, et on y trouve, par exemple, les études sur le passage de la chronique à la commedia avec le Fuente Ovejuna de Lope de Vega, ou bien l'analyse sur la traduction par Amelot de Lahousset du texte de Gracián. Cette année, j'ai pensé que pour redonner une certaine unité ou originalité au cours, on pourrait réduire l'échelle d'observation de ces phénomènes de migration textuelle en portant l'attention sur l'analyse de certains mots qui sont en même temps des notions, des concepts, des catégories, et des mots dont la nouveauté ou bien l'ambivalence pouvait être comme un défi pour la construction de la signification dans le temps même de leur apparition et circulation, et pouvait être aussi un défi profond pour les traducteurs, non seulement les traducteurs d'aujourd'hui, mais les traducteurs des XVIe ou XVIIe siècles. Ce serait une manière d'entrer dans l'analyse de notions fondamentales pour comprendre les cultures ou les sociétés d'Ancien Régime à partir de mots-clés qui présentent cette novation ou cette ambiguïté et qui ont circulé sous des formes diverses, dans des traductions multiples, dans l'Europe de la première modernité. C'est pour ça que je voudrais commencer aujourd'hui avec le mot que j'ai écrit au tableau des deux côtés, « sprezzatura », qui est un mot-clé dans un livre fameux de Castiglione, qui est le livre du courtisan. Et cela m'amènera d'ailleurs, vous le verrez pourquoi, à traiter comme second mot clé dans cette série le terme de curiosité qui apparaît, mais dans un sens très particulier, dans le contexte sémantique de la sprezzatura de Castiglione. Alors, commencer par Castiglione, le livre du courtisan, Il libro del cortigiano de 1528, est commencé évidemment avec un des textes qui a été le plus circulé, diffusé, approprié dans l'Europe moderne, 16e, 17e siècle, et même une reprise de sa trajectoire au cours du 18e siècle. Et c'est ce texte-là, de Castiglione, qui introduit ce terme de sprezzatura. Alors je voudrais dire d'emblée que je ne suis pas un spécialiste, comme vous savez, de l'Italie de la Renaissance, et on le comprendra immédiatement à ma manière de prononcer l'italien, mais que cette étude, qui me paraît essentielle, est fondée sur des travaux très fondamentaux, très importants, qui ont été produits par au moins trois collègues, Amedeo Condam, qui a donné dans l'édition Garzanti une introduction au Libro del Cortegiano, et qui est un texte tout à fait essentiel, parmi d'autres que Amadeo Condam a consacré au livre de Baltasar Graziani, au livre de Castiglione. Le deuxième auteur important est Giorgio Patrizzi, qui a donné une étude très essentielle du Cortegiano en rapport avec les traités qui, dans l'Italie de la Renaissance, pouvaient le précéder ou le succéder. Et cela apparaît dans le volume 3 d'une immense entreprise qui était la Letteratura Italiana, une entreprise collective multivolume publiée par Einaudi sous la direction de Wassor Rosa. Le texte de Condam est de 1981 dans sa première édition de l'édition Garzanti. Le texte de Giorgio Patrizzi est de 84. Et je voudrais évidemment aussi mentionner notre collègue ici, ami Carlo Ossola, qui a consacré lui aussi des essais nombreux et éclairants au Cortegiano de Castiglione, et en particulier a coédité avec Armando Prosperi un volume qui a pour titre La Corte et il Cortegiano, au sens du livre de Castiglione, publié en 1980. On peut s'appuyer aussi sur une étude de Peter Burke dans un livre en anglais, The Fortune of the Courtier, The European Reception of Castiglione's Cortegiano, les fortunes du courtisan et la réception européenne du Cortegiano de Castiglione, un livre publié en 1995 et qui suit le destin, comme dans ses études de Fortuna, d'une œuvre qui est chère à la tradition italienne, le destin du Cortegiano depuis la première édition de Venise en 1528 jusqu'au 18e ou même 19e siècle. Pour citer le texte de Castiglione, je m'appuierai sur l'édition qui on trouve en format de poche, de G.F. Flammarion, Garnier Flammarion, dans un texte qui a été présenté et traduit par Alain Ponce. Mais on verra traduit comment et à partir de quelle traduction antérieure. Donc c'est appuyé sur ces classiques et d'autres, mais que je peux bâtir cette analyse du texte de Castiglione, avec la focalisation, pas du tout une prétention à une analyse exhaustive de ce texte aux multiples aspects, mais avec une attention focalisée sur ce qui a fait peut-être sa réception à la fois nécessaire et difficile, c'est-à-dire l'introduction d'un mot nouveau, peut-être nouveau, sprezzatura, dans le vocabulaire de la langue italienne, mais au-delà, avec la nécessité et la difficulté de le traduire. Alors, je partirai donc de l'édition de 1528, qui est publiée à Venise, chez Aldomanus, Aldo Romano, et qui est associée à ce moment-là, depuis 1495, avec un autre imprimeur-éditeur qui est Andrea d'Assola. Dans cette édition de 1528, il y a comme une double dédicace, une première lettre, qui est une lettre adressée par Castiglione à Michel de Silva, qui est l'évêque d'un diocèse portugais de Viseu, et qui est un ami de Castiglione. Et puis il y a ensuite une seconde dédicace à celui à qui l'ensemble des quatre livres du livre sont dédiées, c'est-à-dire Alfonso Ariosto, qui était un cousin de l'Arioste, l'auteur de l'Orlando Furioso. Et ces deux textes sont très intéressants parce que le premier déploie un genre qui est assez classique dans de nombreux livres, c'est-à-dire un récit de publication. Pourquoi le livre a-t-il été publié ? Et le second, plus original, décrit ou déploie un récit de composition du livre et les raisons de son écriture. La des premières lettres à ce Don Michel de Silva, évêque de Viseu, est une lettre donc adressée à un personnage important de l'Église qui a été connu par Castiglione lorsque celui-ci, en 1513, a fait un premier séjour à Rome comme ambassadeur du duc d'Urbino, à l'époque Francesco Maria della Rovere. Puis il l'a rencontré de nouveau en 1519 et en 1523, lorsque Castiglione, au fil d'une existence assez complexe, était devenu l'ambassadeur à Rome en 1523 du marquis de Mantoue, puisqu'il était né près de Mantoue. Et il faut savoir qu'à partir de 1525, Castiglione est devenu, après avoir reçu les ordres mineurs, nonce pontifical du pape Clément VII auprès de la cour de Madrid, c'est-à-dire en fait auprès de la cour de Charles Quint. Et c'est ce moment-là, je commence en quelque sorte par la fin, mais c'est ce que fait Castiglione dans son livre, c'est à ce moment-là qu'il achève son livre et qu'il l'envoie à Venise, à Aldomanus, en 1527, et le livre est publié en avril de 1528. Et d'ailleurs, il y a la même année une édition de Giunta à Florence. Alors, dans la dédicace, qui est une lettre, une dédicace en forme de lettre à Michel de Silva, Castiglione revient sur cet mécanisme ou récit de publication et reprend, sans doute avec sincérité, mais inscrit dans une figure imposée, un topos du temps, c'est-à-dire l'idée que la publication a été rendue nécessaire parce que l'auteur craignait que la publication par lui-même de son texte soit devancée par la publication de quelqu'un qui possédait un manuscrit, et donc du coup, qui aurait fait circuler sous la forme imprimée un texte qui n'avait pas été révisé, corrigé, qui était fautif et non corrigé. Ceci étant possible, évidemment, puisque nous sommes dans un temps où le concept de propriété littéraire n'existe pas, et que donc si un libraire ou un imprimeur-éditeur reçoit un texte, quelle que soit l'origine de ce texte, il est tout à fait dans son droit de le publier. Le seul délit étant dans les régimes où il y a un privilège d'édition sur un texte pour une durée donnée, serait qu'un de ses confrères s'empare du texte en brisant ou en violant ce privilège. Mais du point de vue des auteurs, il n'y a pas de propriété littéraire et donc ce topos, qui est en même temps sans doute une réalité, de la devancer une publication non contrôlée, est extrêmement fréquent. Alors voilà comment Castiglione le met en scène dans sa dédicace au révérend et illustre seigneur Don Michel de Silva, évêque de Viseu. Me trouvant donc en Espagne, donc depuis 1525, et ayant été averti d'Italie, que Madame Vittoria della Colonna, marquise de Pescara, à laquelle j'avais prêté le livre, en avait, contre sa promesse, fait transcrire et copier une grande partie, je ne pus m'empêcher d'en être quelque peu fâché, craignant beaucoup d'inconvénients qui peuvent survenir en un semblable cas. Néanmoins, je me fiais à l'esprit et à la prudence de cette dame, dont j'ai toujours eu la vertu en vénération comme étant chose divine, pour empêcher qu'aucun préjudice ne me vînt d'avoir obéi à ses commandements. Enfin, je sus que cette partie de mon livre se trouvait à Naples, entre les mains de nombreuses personnes, et comme les hommes sont toujours désireux de nouveautés, on pouvait penser que ces gens-là allaient essayer de la faire imprimer. En raison de quoi, effrayé de ce danger, je résolus de revoir incontinent dans le livre le peu que me permettait le temps dont je disposais, dans l'intention de le publier aimant mieux le laisser voir insuffisamment corrigé de ma main que totalement massacré par la main d'autrui. Ce récit de publication se fonde sur un phénomène classique qui est l'envoi par un auteur d'une copie manuscrite de son œuvre, soit, on le verra, à des amis proches, soit à des grands, des aristocrates, des protecteurs possibles. Et dans ce cas-là, Vittoria della Colonna, qui était elle-même poétesse à Naples et marquise de Pescara. Contre sa promesse, elle a fait copier le livre, et contre sa promesse, ce livre copié a été copié en de multiples copies, puisque, dit Castiglione, il se trouve dans les mains de nombreuses personnes, molti, dans le texte italien. Et donc, c'est un risque pour lui de voir l'un de ses détenteurs, d'une des copies de ce manuscrit, de le faire publier avant même qu'il ait pu y introduire lui-même les dernières corrections. Et c'est pourquoi il parle de cette, j'y reviendrai, cette partie. Une partie de mon livre se trouvait à Naples, considérant que depuis la circulation de cette copie du texte, lui-même a travaillé sur le texte, et donc le texte est plus complet, plus développé que celui qui était entre les mains de la marquise de Pescara. Donc du coup, il a, durant son séjour à Madrid, à partir de 1525, révisé son texte et finalement, devant cette crainte, abrégé le travail sur le texte pour envoyer un état qu'il considère comme non pas le parfait, mais pour le moins le plus proche de ce qui serait son livre, et l'envoyer donc à Aldomanus à Venise. Dans ce récit de publication, ce qui est une touche particulière, c'est le fait qu'à Madrid, en Espagne, en relisant son texte pour y introduire les corrections qu'il pensait nécessaires, Castiglione a été envahi par la mélancolie et par le sentiment de la mort, puisque son livre est, comme vous savez peut-être, en quatre parties, la transcription d'un échange, d'une conversation entre des courtisans, qui sont ceux d'Urbino, et que ces quatre parties correspondent à quatre soirées dans lesquelles des thèmes successifs sont abordés par la conversation de ces courtisans d'Urbino. Et relisant son texte, le sentiment d'une lecture habitée par la mort envahit Castiglione. Dès la première page, aussitôt que je vis le titre, je fus pris d'une grande tristesse qui, à mesure que j'avançais, s'accrut beaucoup, me souvenant que la plus grande partie de ceux qui sont introduits dans ces discours étaient déjà morts. Donc, c'est quelque chose qui est écrit entre 1525 ou 1526, enfin même plutôt 26-27, cette lettre à Viseo. Mais les conversations qui sont supposément transcrites dans le livre, elles sont de 1507, lors du principat du duc d'Urbino antérieur à Della Rovere. Montefeltro. Et donc, il y a une distance temporelle qui existe entre 1507, date des conversations, et 1527, date de l'envoi du livre à Venise, et peut-être de l'écriture de cette lettre. Et dans ce temps, la mort a fait les ravages, puisque, énumérant tous ceux qui sont morts, Castiglione énumère Alfonso Ariosto, qui est le dédicataire des quatre livres qui est mort en 1525, le duc Julien de Médicis, dit le Magnifique, qui est mort en 1516, Bernardo de Bibiena, cardinal, auteur d'une pièce, La Candelaria, célèbre, mort en 1520, Ottavio Fregoso en 24, et la duchesse d'Urbino, qui tient un rôle central dans le livre, Elisabetta Gonzaga, qui est mort en 1526. Il y a donc là une... Et c'est à elle, d'ailleurs, que sont consacrées les lignes les plus fortes de ce mémorial que devient le livre et de cette réflexion sur la mort. Mais ce qui ne devrait pas se raconter sans grandes larmes, c'est que Madame la Duchesse, donc Elisabetta Gonzaga, elle aussi est morte. Et si mon cœur se trouble pour la perte de tant d'amis et de seigneurs qui m'étaient chers et qui m'ont laissé dans cette vie comme dans une solitude pleine d'ennui, il est juste que la mort de Madame la Duchesse me cause une douleur bien plus poignante que celle de tous les autres, puisque cette dame dépassait de beaucoup tous les autres par sa valeur et que je lui étais obligé bien plus qu'à tous les autres. Pour ne pas tarder donc à m'acquitter de ce que je dois à la mémoire d'une si excellente dame et à celle des autres qui ne sont plus en vie, et aussi parce que je suis poussé par le danger dans lequel je vois mon livre, je l'ai fait imprimer et publier tel que la brièveté du temps me l'a permis. Donc du coup, le récit de publication classique, l'urgence nécessaire, l'urgence qui rend la publication nécessaire, se trouve articulée avec cette idée de construire un mémorial pour ses courtisans, ses amis de Castiglione qui sont morts, et en particulier cette figure centrale dans les conversations des quatre soirées, qui était celle de la duchesse d'Urbino, morte très récemment par rapport à l'écriture de ce texte, puisqu'elle est morte en 1526. Et de là naît, dans cette lettre de dédicace, la double nécessité de la publication, mais aussi le dessin du livre, un portrait peint de la cour d'Urbino, como un ritratto di pittura. Et Castiglione joue ici sur le rapport qu'on retrouvera entre l'écriture et l'image, disant que lui n'est pas un Raphaël ou un Michel-Ange et qu'il ne va pouvoir seulement tracer des lignes principales de ce portrait, ritratto, de la cour d'Urbino sans pouvoir lui donner les couleurs ou les perspectives que les grands peintres lui donneraient. Ce qui est déjà introduire un thème fondamental du livre, et au-delà du livre, de la première modernité, c'est-à-dire la pensée de l'équivalence entre le discours et l'image, mais avec évidemment aussi une différence qui est ici donnée comme le discours trace des trames, des lignes, mais ne peut ni rendre les couleurs, ni introduire la perspective qui sont ceux des peintres. Donc le livre devient un mémorial et finalement l'ombre qui se porte sur lui, c'est en quelque sorte l'image ou la souvenir ou la trace d'un monde perdu, 20 ans auparavant, 1507, 1527. Et ce monde perdu, il est un monde perdu non seulement par la mort des protagonistes, de la plupart des protagonistes des conversations, mais évidemment, il est aussi comme inscrit sur une toile de fond, qui est le monde italien qui a été détruit par les guerres d'Italie et par les ruines. Dans cette dédicace, Castiglione l'évoque lorsqu'il mentionne « À cause des guerres et des ruines subies par l'Italie, se sont opérés des changements dans la langue, dans les édifices, les habits et les coutumes. » Comme si ces 20 années avaient été la césure dans le monde italien et que sont perdus et l'indépendance des États souverains, les pratiques de sociabilité, voire même les transformations de la langue. C'est sur cette trame de fond que s'inscrit ce livre rétrospectif. D'autre part, évidemment, cette hantise de cette présence de la mort dans l'écriture, elle n'apparaît pas seulement en 1527 avec les décès plus ou moins récents des protagonistes, à commencer par la duchesse, mais que dans un sens, elle était présente dès les premières rédactions sur lesquelles je vais revenir, puisque le livre 4, par exemple, le quatrième livre, s'ouvre avec qu'il y a la même, le même rapport entre l'écriture et la mort. Et là, il s'agit d'un texte dont on, qui a été écrit sans doute au cours, à partir des années de 1510 ou 20. Quand je m'apprête à écrire les discours qui furent tenus la quatrième soirée, après celles qui ont été racontées dans les livres précédents, je sens parmi les divers propos une pensée amère qui me frappe au cœur et qui me fait souvenir des misères humaines et de nos espérances fallacieuses, et j'éprouve comment souvent la fortune, à mi-cours et parfois près de la fin, rompt nos fragiles et vains desseins et parfois les engloutit avant qu'ils puissent même voir de loin le port. Il me revient donc en mémoire que peu de temps après que ces entretiens eurent lieu, la mort importune priva notre maison de trois gentilshommes fort rares dans la fleur de leur âge et leur espérance d'honneur, et il cite Gaspar Pallavicino, qui était mort en 1511, Cesare Gonzaga, mort en 1512, et Roberto da Bari, mort en 1512. Donc dès les premiers moments de l'écriture, c'est-à-dire sans doute dans la deuxième partie de la décennie 1510, on a cette ombre portée de l'absence et de la mort sur l'écriture, qui deviendrait en quelque sorte comme une association profonde, essentielle pour comprendre le livre. Donc un récit de publication classique, mais qui se teinte du fait de cette transformation du texte en mémorial d'une couleur originale. Dans la dédicace suivante, c'est-à-dire la dédicace qui ouvre le premier livre à Alfonso Ariosto, comme je disais, un cousin de Ludovico Ariosto, qui avait fait une carrière militaire et diplomatique et qui était un ami d'un ami aussi de Castiglione, c'est-à-dire Bembo, il y a un deuxième récit qui est un récit là, de la composition du texte. La mise en scène, non pas des raisons de sa publication, mais la mise en scène ou mise en texte de ce qu'est dans son écriture le texte lui-même. Il faut rappeler donc que Castiglione est entré à la cour d'Urbino en 1507, pardon, en 1504, et au service du duc Guidobaldo de Montefeltro. Mais en 1507, lors des conversations qui sont rapportées, il est absent, puisqu'il a été envoyé comme émissaire diplomatique en Angleterre entre septembre 1506 et mars 1507. Il fait donc le récit de soirées dans lesquelles il n'est pas présent. Et d'ailleurs, cette absence est redoublée par le fait que le duc lui-même, Guidobaldo de Montefeltro, n'est pas présent dans ce qui serait sa cour, puisque la maladie fait qu'il ne peut participer à ces soirées. On a donc là une double réalité, c'est-à-dire un texte qui est fondé sur une double absence. L'absence de celui qui rapporte les propos des conversations et l'absence de la figure centrale de cette compagnie qu'est la petite société des courtisans d'Urbino et qui est le duc, ce qui donne du coup ce rôle fondamental à la duchesse Élisabeth. Le prince est absent parce que douté des plus grandes qualités, il a été frappé par la fortune. Et j'attire l'attention sur ce mot, on l'a déjà entendu dans la dédicace du quatrième livre, la fortune, qui est en fait une infortune dans ce cas-là. Les desseins cachés, imprévisibles de la fortuna. La fortune, envieuse de tant de vertus, s'opposa de toute sa force à un si glorieux commencement, qui était comme début d'une carrière brillante, militaire et civile du duc Guidobaldo de Montefeltro. de manière que le duc, avant même d'avoir atteint ses 20 ans, devint malade de la goutte, et qui, se diffusant avec d'atroces douleurs, en peu de temps, le rendit perclus de tous les membres, au point qu'il ne pouvait se tenir debout ni se remuer aucunement, et ainsi demeura difforme et ruiné en la verdeur de son âge, un des corps les plus beaux et les plus harmonieux du monde. Et c'est ce contraste, comme on va le voir, entre le corps élégant et harmonieux du courtisan et ce corps ruiné de celui qui donne sa raison d'être à la compagnie des courtisans, qui peut aussi être considéré comme une des du drame du récit. Et en cet état, le duc ne peut participer après le dîner, après la cena, à la conversation qui se déplace dans la salle des veillées, qui est un espace entre la salle officielle du trône, de réception à Urbino, et dans les appartements privés. Il y a donc une sorte de zone intermédiaire où se réunit la petite compagnie des courtisans autour de la duchesse Elisabeth et autour de sa première dame d'Atour, qui a un rôle décisif dans les conversations et qui est Emilia Pia. Et dans cette société, à ce moment-là, l'égalité est établie. Il n'y a pas de hiérarchie des rangs, ni pour se situer, ni pour intervenir. La description fait que chacun, l'ordre était tel qu'aussitôt que l'on était arrivé devant Madame la Duchesse, chacun se mettait à s'asseoir comme il voulait, ou comme le hasard le disposait, en cercle, et en s'asseyant, on était séparés, un homme et une femme, autant qu'il y avait de femmes, parce que le nombre des hommes était presque toujours beaucoup plus grand. Puis on se gouvernait comme il plaisait à Madame la Duchesse, qui le plus souvent en laissait la charge à Madame Emilia. On trouve une structure qui finalement va être celle des formes de sociabilité mondaine et lettrée, c'est-à-dire dans le temps de la rencontre, une sorte de suspension des différences de rang, puisque ici on a une égalité qui est donnée par cette forme du cercle, où finalement chaque point est à même distance du centre. Et on a d'autre part ce deuxième trait qui est une compagnie essentiellement masculine, mais qui est sous le gouvernement durant ce temps de la conversation de la femme, soit la duchesse, soit sa dame d'Atour, Emilia. Et du coup, on a aussi cette absence du prince qui n'apparaît dans le livre non seulement comme cette présence absente, mais qui est la raison d'être de la compagnie, mais apparaîtra aussi dans le quatrième livre, celui où l'attention est portée sur un des rôles du courtisan, c'est-à-dire d'être un conseiller avisé du prince. Cette situation, elle entraîne le récit de composition du texte tel que le mène Castiglione, puisque, évidemment, il y a des chaînes de médiation entre les conversations de 1507, auxquelles il n'a pas participé, et d'autre part, la dernière étape de la rédaction du livre en 1527. Je cite, c'est donc dans la dédicace à Alfonso Ariosto dans le premier livre. Nous ne suivrons dans ces livres, les quatre livres du livre, aucun ordre certain ni aucune règle faite de préceptes distincts comme ceux dont on a plus souvent l'habitude de se servir quand on veut enseigner quelque chose que ce soit. Mais à la manière de nombreux anciens, et renouant avec d'agréables souvenirs, nous rapporterons quelques propos qui ont été jadis tenu sur ce sujet par certains hommes très remarquables. Et bien que je n'y fusse pas présent, parce que j'étais en Angleterre quand ils furent prononcés, je les ai entendus peu après mon retour de la bouche d'une personne qui me les a fidèlement racontés, et je m'efforcerai de les rappeler avec exactitude, autant que ma mémoire me le permettra, afin que vous sachiez ce qu'on crut et jugeait en cette manière des personnages dignes des plus grands éloges, au jugement desquels, en toute chose, on pouvait indubitablement se fier. La manière dont il est question, c'est celle de la manière, de la matière dont il est question, c'est la matière du livre lui-même, c'est-à-dire le portrait du courtisan parfait. Mais donc, il y a là comme un récit qui commence avec les paroles vives échangées durant les quatre soirées, mais évidemment à jamais perdues, et dont Castiglione n'a pas été le témoin, mais qui lui ont été rapportées par la bouche d'une personne qui les a fidèlement reproduites, mises en mémoire par Castiglione, et cette descente dans sa mémoire lui permet de rédiger les textes de la conversation. Il y a donc un enchaînement entre conversation, récit, mémoire, écriture. La publication de ces conversations ainsi rapportées et mises en mémoire, évidemment, on peut la dater du moment où, 1528, le livre paraît à Venise, et en même année, comme je le disais, à Florence. Mais on peut aussi donner au mot « publication » un sens plus large que celui qu'on a l'habitude de lui donner, c'est-à-dire la publication imprimée, puisque avant l'édition vénitienne, le texte, on l'a vu, avec la marquise de Pescara, a circulé, et a circulé dans des états successifs et dans des formes manuscrites. La pratique de faire circuler un texte manuscrit, non seulement pour le donner en hommage ou en dédicace à des personnes de qualité, mais aussi pour créer une sorte de processus collectif de la production du texte, est une pratique classique. Et elle est d'ailleurs même évoquée par le texte lui-même, lorsque, évoquant l'idée que le courtisan doit être aussi un lettré, doit être un humaniste, mais sans être nécessairement un érudit, il peut se livrer à cette circulation. Je cite, « Si à cause de ses autres occupations, ou parce qu'il a peu étudié, il, le courtisan, ne parvient pas à une perfection telle que ses écrits soient dignes de grandes louanges, qu'il veille à les supprimer pour ne pas donner l'occasion à autrui de s'en moquer et qu'il les montre seulement à un ami auquel il puisse se fier. » Alors là, l'hypothèse est celle d'un courtisan qui ne serait pas suffisamment lettré pour donner une circulation plus générale à son texte et qui donc utiliserait comme aire de circulation les liens de l'amitié. Mais c'est cette pratique, même si Castiglione ne s'identifie pas avec ce courtisan insuffisamment lettré, qu'il a suivi puisque que son texte, il l'a envoyé à un certain nombre des humanistes qui lui étaient liés par l'amitié pour qu'ils interviennent dans le texte ou lui suggèrent révision et correction. Et l'histoire de la composition du livre est tout à fait exceptionnellement documentée. Le Il Corteggiano de Castiglione présente un cas extrêmement rare pour les textes des XVIe et XVIIe siècles, dans la mesure où on dispose de 5 manuscrits du texte, qui ont été étudiés avec beaucoup de précision et de savoir par Amedeo Condam. Et ces manuscrits appartiennent aux 3 grandes catégories de manuscrits, c'est-à-dire un manuscrit autographe, des copies assuré par des scribes ou des secrétaires, et finalement le manuscrit qui a servi de copie d'imprimerie pour l'atelier d'Aldemanus. Ces 3 formes de manuscrits, autographe, de copiste, d'atelier, sont en général totalement absentes pour la plupart des textes dont j'ai parlé jusqu'à maintenant dans ces cours. Il y a là une situation tout à fait exceptionnelle, non pas nécessairement dans sa réalité, mais dans ses traces et sa documentation. Le premier manuscrit autographe, de la main de Castiglione, qui est appelé dans la tradition manuscrit A et qui se trouve conservé à Mantoue aujourd'hui, est la première rédaction du texte que l'on estime avoir été faite entre 1513 et 1514, sans doute donc avec une distance de 7 à 8 ans par rapport aux conversations qui sont rapportées, et sans doute à partir d'un cahier ou deux cahiers de notes que Castiglione avait commencé à tenir dès avant 1508, 1508 étant une date très importante dans ce rapport entre l'écriture et la mort, puisque c'est la mort du pauvre Guidobaldo de Montefeltro, le duc malade, absent. Et c'est le moment 1508 où Castiglione entre au service de celui qu'il enverra à Rome, c'est-à-dire le successeur de Montefeltro, Francisco Maria della Rovere. Et dès ce moment-là, dans le récit rétrospectif de 1527, la mort est définie comme étant une première raison de l'écriture. La lettre à Viseu, l'évêque de Viseu, commence ainsi. « Quand le seigneur Guidobaldo de Montefeltro, duc d'Urbino, fut passé de cette vie en l'autre, c'est-à-dire en 1508, je demeurais avec quelques autres chevaliers qu'il avait servi au service du duc Francesco Maria della Rovere, héritier et successeur de celui-ci dans l'État, et comme en mon esprit, j'avais encore la mémoire fraîche des vertus du duc Guido et de la satisfaction que, pendant ces années-là, j'avais ressentie de l'aimable compagnie des personnes aussi excellentes que celles qui se trouvaient alors à la cour d'Urbino, je fus poussé par ce souvenir à écrire ces livres du courtisan, ce que j'ai fait en peu de jours, avec l'intention de corriger avec le temps les fautes qui étaient venues de l'ardent désir que j'avais de payer bientôt cette dette. Mais la fortune, depuis déjà bien des années, m'a toujours accablé sous le poids de tâches si continuelles que je n'ai jamais pu prendre le temps de les mener au point dont mon faible jugement serait demeuré content. » Donc vous voyez que dès la première rédaction, telle qu'elle est racontée en 1527, c'est cette idée de la mort du duc, de la nécessité de construire une mémoire ou un mémorial qui pousse Castiglione à commencer une rédaction du courtisan. Et on voit aussi qu'il insiste, sans doute du point de vue d'une reconstruction rétrospective, sans que ce soit nécessairement une conformité à la vérité, sur le fait qu'il l'a fait en peu de jours, in pochi giorni, ce qui est sans doute une manière de vouloir rapprocher dans ce récit de publication la date d'écriture, au moins de son commencement, et la date des conversations, 1507-1508. Mais aussi, sans doute, comme on l'a vu peut-être tout à l'heure, vous l'avez entendu lors de la description du récit de composition, cette idée que le livre ne va suivre aucun ordre, qu'il n'est pas fait de préceptes, qu'il n'est donc pas un manuel. L'idée, sans doute, d'appliquer à sa propre écriture, rapide, libre, élégante dans son ou aiguë, dans son désordre, quelque chose des vertus que l'on attend du courtisan. Et donc, ici, il y a là une mise en scène rétrospective, sans doute croisant ce qui est ce thème déjà abordé dans trois circonstances successives, qui est le thème de la relation entre la mort et l'écriture, et d'autre part aussi une mise en scène pour le lecteur de ces processus, et en particulier cette idée des peu de jours nécessaires pour la rédaction d'un texte qui serait au plus près de l'événement. Donc on a un premier manuscrit, peut-être commencé d'une forme ou sous une autre dès 1508, après la mort du duc, en tous les cas, que l'on date de 1513-1514. Ensuite, il y a les les copies qui sont établies par des secrétaires, des copistes, lorsque, à partir de 1513, Castiglione, au service de la Rovere, va à Rome comme son ambassadeur, son envoyé auprès du pape. Et antérieurement, entre 1508 et 1513, Castiglione a été très actif, à la fois diplomatiquement et militairement, dans toutes les opérations si complexes, avec ces renversements permanents d'alliances qui caractérisent les guerres d'Italie. Installé à Rome, il reprend le texte qu'il a commencé, sans doute, comme on l'a vu, avec une deuxième série de références aux disparus, c'est-à-dire Pallavicino, Gonzaga, Bari, et deux manuscrits sont établis, le manuscrit que l'on appelle B, qui est de 1514-1515, un seul copiste, des interventions autographes de Castiglione, et le manuscrit C, 1515-1516, deux copistes, et des interventions non seulement de Castiglione, mais aussi d'autres mains, d'autres écrivains, par exemple Bembo. Les deux manuscrits, B et C, se trouvent à la bibliothèque vaticane. En 1516, à la suite d'un conflit avec le pape, le duc Francesco Maria della Rovere est excommunié. Castiglione doit quitter Rome, il s'exile dans sa propre ville, Mantoue, et travaille sur le texte pendant trois années, entre 1516 et 1519, et là encore, c'est dans cette période qu'il envoie les manuscrits B et C à tout ce réseau d'amis, Alfonso Ariosto, Bembo, Sadolet, le cardinal d'Este. En mai 1519, les choses se sont, sinon arrangées, mais du moins que maintenant, comme ambassadeur du duc de Mantoue, Castiglione retourne à Rome, où il va essayer de défendre, et avec succès, la récupération de son duché par della Rovere. Et c'est dans cette période-là qu'est établi le quatrième manuscrit, le manuscrit D, quatre mains, quatre copistes, quatre secrétaires, que l'on peut dater de 1520-1521. Là aussi, un manuscrit qui est conservé à la Bibliothèque Vaticane, qui intègre des corrections, les révisions, les observations qui ont été faites sur les manuscrits B et C par Bembo, Ariosto, Alfonso Ariosto ou Sadolet. Et on arrive finalement, après ces deux premières classes de manuscrits, un manuscrit autographe, trois manuscrits de copistes, et pour deux d'entre eux de plusieurs mains, au dernier manuscrit, qui est conservé à la bibliothèque laurentienne, à Florence, connu comme manuscrit L, qui aurait été terminé à Rome en mai 1524, mais plus qu'aurait, parce que là, dans ce cas-là, le copiste a daté son travail, donc de mai 1524. C'est un manuscrit qui résulte du travail qu'a fait sur le manuscrit D, Castiglione, lorsqu'il a passé du temps à Mantoue, entre 1522 et 1523, et c'est ce manuscrit qu'il emporte avec lui en Espagne. Et la plus grande transformation qui a fait l'objet d'un fini commentaire entre tous les manuscrits précédents jusqu'à D et ce manuscrit L, romain puis emmené en Espagne, c'est le fait que le livre trouve sa structure définitive en la séparation de ce qui était le troisième livre entre deux livres, le livre 3 et le livre 4, avec des thématiques centrales, pas uniques, mais centrales, bien découpées. Le livre 4, comme je le disais, le courtisan comme conseiller du prince, et le livre 3, la donna del palazzo, le portrait de la dame du palais idéal. Donc ce manuscrit en Espagne, comme on l'a vu, Castiglione continue à travailler dessus jusqu'en 1527, au moment où il l'envoie sous la pression de la crainte d'une publication où il l'envoie à Venise. Ici, on voit que ce manuscrit L est aussi un manuscrit rare en général, puisque les manuscrits utilisés par les ateliers d'imprimerie ont souvent, presque toujours, été détruits. C'est un thème que j'avais abordé dans des cours précédents, c'est-à-dire pourquoi il y a si peu de manuscrits d'auteurs ou de manuscrits d'œuvres antérieures au XVIIIe siècle. C'est parce qu'il y a un double processus de destruction. Lorsqu'un manuscrit est établi au propre par des copistes et des scribes, en général, le manuscrit autographe perd tout intérêt et est détruit. Et d'autre part, lorsqu'un de ces manuscrits établis au propre devient la copie utilisée dans l'imprimerie, une fois que le livre est imprimé, le manuscrit est détruit ou réutilisé pour le papier, ce qui explique la rareté des manuscrits autographes, mais aussi la relative ou grande rareté des manuscrits utilisés dans les imprimeries. Là, on a un cas exceptionnel de cette conservation, ce qui permet de voir comment le manuscrit de Castiglione, déjà lui-même extrêmement composite, avec la main du scribe, ses corrections d'auteur, des interpolations de ses amis lecteurs, va subir aussi des transformations qui sont les transformations qui font qu'un manuscrit peut être utilisé pour la composition typographique. La situation est là aussi très exceptionnelle, au moins à l'échelle européenne, dans la mesure où on peut voir sur ce manuscrit utilisé par Aldemanus dans son atelier, le travail du correcteur. Ce correcteur est d'ailleurs identifié, il s'agit de Giovan Francesco Valerio, qui n'est pas un correcteur professionnel, qui est un ami de Pietro Bembo et qui se charge de ce qui était le processus normal, comme l'a bien montré Brian Richardson, dans l'édition italienne la fin du début du XVIe siècle, c'est-à-dire un processus qui devait non seulement préparer le manuscrit pour l'ouvrier typographe, le compositeur, mais aussi établir une sorte de normalisation linguistique, d'établir ce qui était devenu une convention, un code, c'est ce que Richardson appelle la toscanisation du langage, c'est-à-dire qu'un certain nombre de formes graphiques ou orthographiques étaient soumises à ce qui était la norme ou la règle établie en rapport avec la langue de Florence. Et il y a effectivement dans le manuscrit L des éléments qui vont dans ce sens. En même temps, il y avait une difficulté pour le correcteur dans ce cas-là, c'était la revendication de Castiglione dans la lettre à Viseo ou sa volonté de ne pas se soumettre à ces règles d'unification linguistique, disant qu'il ne voulait écrire ni non à la manière des classiques de la langue toscane, comme par exemple Boccace, ni non plus à la manière des contemporains, et qu'il jugeait nécessaire que soit respectée sa manière d'écrire. Il était né donc juste après de Mantoue, donc sa manière d'écrire dans une langue qui est plutôt celle donc du nord de l'Italie. Je ne crois pas que l'on doive me reprocher d'avoir mieux aimé me faire connaître comme lombard parlant lombard que comme non toscan parlant trop le toscan, afin de ne pas faire comme Théophraste, puis parce qu'il parlait trop parfaitement l'Athénien, fut reconnu par une simple vieille femme comme n'étant pas Athénien. Donc il y a cette revendication de son identité propre conservée à travers une manière d'écrire qui se joue sur un certain nombre d'éléments et que Valerio a respecté, de façon à ce qu'il n'y ait pas une contradiction entre un livre qui serait entièrement toscanisé après qu'il a été proclamé dans son commencement qu'on respectait d'autres formes de l'écriture de l'italien. Et donc il a conservé tout un ensemble de formes qui ne sont pas habituelles au processus de Goethe-tokenisation, par exemple populo et non pas popolo, bona et non pas buono, et les terminaisons de la première personne au pluriel en emo et non pas yamo, ou bien de la troisième personne du singulier en eno et non pas ono, tout un ensemble de formes graphiques, orthographiques qui sont à l'écart. Et donc il y a une subtilité dans cette préparation du manuscrit L pour l'imprimerie, d'une toscanisation générale, mais en même temps accompagnée de ce respect de ce que Bembo voulait, c'est-à-dire de la présence de formes propres à la langue, sinon lombarde, mais en italien du Nord, et non pas de la toscanisation. Le deuxième élément qui est rare, c'est le fait que toute une correspondance entre Castiglione et son agent, qui se trouvait à Venise, des lettres de 1527, montre sa participation dans le processus de publication, puisque dans une lettre du 9 avril 1527, Castiglione demandait que 1030 exemplaires soient publiés du livre, donc un tirage de 1030 exemplaires. Il en payerait 530, les 500 normaux plus 30 qui seraient sur un papier dit royal, donc un papier plus luxueux, et qui lui serviraient pour 130 d'entre eux, donc les 30 luxueux et puis 100 autres, pour être envoyés comme dédicace, comme ouvrage en présent à des amis ou des protecteurs ou des grands. Les 400 autres, des 530 dont se chargerait Castiglione, seraient vendus à son propre profit par des libraires. On trouvait dans ce mécanisme deux éléments tout à fait essentiels des processus d'édition au XVIe, XVIIe siècle. D'un côté, le fait que l'auteur prend à sa charge une partie du coût de l'édition, ici la moitié plus 30, et souvent en achetant le papier qui lui est nécessaire pour cela, que d'autre part, il y a, même si l'on est dans le marché du livre, une importance décisive de la protection du patronage, et donc une importance décisive des exemplaires remis en dédicace, en présent, en hommage. Et j'ajouterai même un troisième trait, qui est le fait qu'on a aussi une publication par l'auteur lui-même, puisque là, Castiglione imaginait que 400 exemplaires qui seraient vendus par un libraire lui reviendraient directement comme profit. Aldomanus paraît réticent devant cet accord, puisqu'il il exprime l'idée qu'il faudrait faire un tirage à 2000 exemplaires, que seulement 130 devraient être payés par Castiglione, c'est-à-dire que la logique d'Aldomanus est plus une logique du marché au profit de l'éditeur qu'une logique de l'édition par auteur et de la dédicace, sinon que il maintient 130 exemplaires payés par Castiglione, qui serait celui envoyé en dédicace. C'est une lettre de novembre 1527. On n'a pas la certitude de ce qui est advenu, et il n'y a pas de données qui permettraient de savoir si c'est la perspective de Castiglione ou la réponse de Manus qui l'ont emporté. Il semblerait qu'il y ait un compromis, puisque dans une autre lettre, Castiglione évoque l'achat par lui-même de papier pour 500 exemplaires. Mais donc, on voit que la fourchette, si j'ose dire, du tirage d'un livre comme le Castiglione serait entre les 1000 et 2000 exemplaires. Comme vous vous souvenez, en général, on estime comme un tirage moyen 1500 exemplaires ou 1750 exemplaires. En tous les cas, restent importantes les exemplaires en dédicace. Castiglione insiste dans une lettre que l'un des exemplaires doit être sur vellum, c'est-à-dire le parchemin le plus luxueux, et avec la reliure la plus luxueuse possible, qu'il faut lui envoyer en Espagne, donc clairement pour l'offrir à Charles Quint, à la cour. Les autres exemplaires de dédicace, luxueux, mais un peu moins, étant distribués entre les princes, et en particulier les princes de principauté dont il a été le serviteur, Mantoue ou Urbino. Le livre est donc publié en avril 1528 et Castiglione, évidemment, ne sait pas, d'ailleurs même, ne l'a pas pu en, en voir le résultat, puisque après une situation très difficile qui avait été créée pour lui par le sac de Rome de 1527, puisqu'il était là à la cour de Charles Quint et comme nonce apostolique. Il y avait donc là une difficulté d'une position, et j'y reviendrai parce qu'elle se traduit dans certaines des biographies qui ont été écrites dans le temps de Castiglione. Il meurt le 8 février 1529, c'est-à-dire très peu de temps après la publication de son livre, et sans que l'on sache s'il en a pu voir un exemplaire de l'édition telle qu'elle est sortie des presses de Venise. Donc voilà une première partie de ce récit. On peut peut-être en rester là, et dans 5 minutes, à 11h05, je reprendrai avec le cœur du livre pour arriver à ce mot qui nous sert aujourd'hui d'objet d'étude et qui est sprezzatura. Donc on peut suspendre quelques minutes jusqu'à 11h05.